Espagne un culte participatif à la gloire de Dieu par ces témoignages de notre frère Raymond, notre sœur Josiane. On appelle ça un culte participatif devant le Seigneur. Parce qu'il n'est pas donné qu'au chantre, qu'à celui qui porte la parole de participer, mais par des témoignages comme ça devant Dieu, Dieu il est content là-haut. Quand il voit ses enfants le remercier pour la moindre des choses, la plus petite des choses, il est content. Merci Seigneur. En tous les cas, hier, on était sous la chaleur, n'est-ce pas? Chaleur accablante. Et aujourd'hui, on respire un peu mieux. Donc, on peut dire merci Seigneur. Il fait un peu plus frais ce matin. Et on va pas dire non, on va se réjouir. Parce que les nuits ont été difficiles pour certains avec cette chaleur. Je relevais un petit, pendant ce chant, pendant que nos jeunes chantaient, l'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Et pour moi, et Jésus se découvre tout doucement à travers cette voile matinale. Et en entrant en contact avec lui, toute la journée, il nous tient par la main jusqu'au bout, n'est-ce pas? Voilà, notre pasteur n'est pas là, mais le culte, les cultes du dimanche et de mardi doivent continuer. Parce que s'il n'y a pas de pasteur, l'église aussi doit continuer. Comme cette église de Créteil, sans pasteur, a continué, n'est-ce pas, sœur Viviane? Et jusqu'à maintenant, Dieu nous a envoyé un pasteur qui est en déplacement, mais le message aussi doit continuer. Donc aujourd'hui, c'est à moi de partager avec vous quelques textes de la Bible. Il y en a pas mal à lire ce matin. Mais avant cela, je demande à la sœur Viviane de remettre ces moments dans les mains du Seigneur.
Seigneur, merci de le diriger, parce qu'il a besoin de puiser ses forces en toi. Et nous te supplions, Papa, nous aussi qui sommes là, il n'y a pas de hasard. C'est parce que tu as choisi ce moment pour chacun de nous, et nous voulons être à ton écoute. Pas être borné seulement à écouter, mais Seigneur, à la pratiquer. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Amen.
Nous te disons merci pour cette grâce ici crétée, mais partout ce matin où tes enfants sont réunis en ton nom, Saint-Esprit, fais ton œuvre parmi nous. Et nous te disons merci pour cette grâce que nous avons ce matin d'être présents. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Donc, je prépare un message autour de l'Apocalypse de Jean. Il n'y a pas de jugement. C'est juste une prise de conscience que moi, que vous, devez prendre. Et c'est vrai qu'à un certain moment de la vie chrétienne, on doit se mettre en face de Dieu et puis se poser des questions, savoir où on en est. Quelle est notre position avec Dieu? Donc je dirais ce matin, tu as franchi la porte de cette salle parce que tu as peut-être soif de l'évangile. Donc tu es peut-être chaud, bouillant. Peut-être que tu es venu aussi parce que les problèmes s'accumulent. Tu es là à la recherche de soutien, de solutions à travers l'évangile. Tu recherches du réconfort. Tu es peut-être venu ce matin, car pour toi, c'est la routine de se rendre chaque dimanche à l'église. Et tu t'en vas aussi vite que tu es rentré. Et nous verrons à travers ce texte de l'Apocalypse de Jean, que nous allons partager, nous allons nous situer et savoir notre position en tant qu'Église. Et la question est de savoir ce matin, sommes-nous bouillants, sommes-nous tièdes, sommes-nous froids? Nous allons prendre l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 9 à 20, quand Jean reçoit la révélation de Jésus-Christ. Il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait de sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc nous voyons que Jean, en déplacement à Patmos, cette ville, c'est une ville située entre les anciennes provinces d'Asie et de Carie, c'est une ville située en Asie mineure, entre les deux, anciennes provinces d'Asie et Asie mineure. Là, il fut saisi par l'Esprit du Seigneur. Et là, il reçoit des recommandations à faire part aux sept églises d'Asie. Donc, il commence par l'église d'Éphèse. On va juste survoler parce que ce ne sera pas projeté. Nous voyons que Christ reproche à cette église d'Éphèse qu'il a abandonné son premier amour. Et Christ lui dit, repens-toi et pratique de nouveau les premières œuvres. À l'église de Smyrne, Christ l'appelle à la persévérance. Il les prévient que les tribulations et la souffrance seront présents pour un certain temps, mais il leur demande de rester fidèles jusqu'au bout, et même jusqu'à la mort, parce que certains dans cette église vont mourir à cause de l'Évangile. Et il dit, je te donnerai la couronne de vie. À l'église de Pergame, il dit qu'il y avait des gens parmi vous qui se sont attachés à la doctrine de Balaam. Et Balaam est considéré comme un sorcier, selon la Bible, un divin, un séducteur. Et certains dans cette église de Balaam, de Pergame, pardon, ils servaient Dieu en même temps et s'étaient attachés en même temps à cette doctrine. Donc, Christ prévient les gens de leur dire, faites attention. Là, vous êtes en train de servir deux maîtres. À l'église de Thyatire, Christ les reproche de laisser une femme nommée Jézabel enseigner. Et cette femme, elle faisait quoi? Mais séduisait les serviteurs de l'Éternel et les poussait à l'impudicité. L'église de Sardes, Christ fait ce rappel. Tu as l'image d'une église vivante, mais en fin de compte, tu es endormi. Tu as oublié l'essentiel. Christ, prends garde, repens-toi. Dans tout cela, Dieu, il ne fouette pas. Il parle, il dit, repens-toi, fais attention, tu n'es pas dans le droit chemin. Jusqu'à là. Parce que c'est un Dieu de compassion. L'église de Philadelphie, là, il y a des encouragements pour cette église. Christ te dit que tu as peu de puissance, église de Philadelphie. Mais tu as gardé mes commandements et tu as pas rogné mon nom. Enfin, septième église, je reçois cette révélation à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22 que nous allons lire. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que je dis, l'Amen. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Je peux continuer. Hein? Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Puisque tu es ni froid, ni chaud, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. On va s'arrêter sur ce passage de la Bible qui nous concerne aussi en tant qu'Église. Être foi, c'est la condition de l'homme au naturel, normalement. Il est étranger à la vie de l'esprit, même il peut être religieux. Être bouillant, c'est accepter tout entier le feu de l'esprit. C'est être zélé pour l'évangile. La tiédeur est un comportement, il connaît la grâce, il connaît l'évangile, mais il est gagné par lui-même et par les convoitises du monde. Il est aussi accaparé par l'orgueil. Nous connaissons tous l'orgueil de l'homme. La Bible nous dit que je fais quelques recherches. Laodicée était une ville située au carrefour de trois grandes routes de l'Asie mineure. Et cette ville était un grand centre commercial, administratif et financier. Cette ville de Laodicée possédait même un grand nombre d'écoles de médecine. Et ensuite, nous voyons que l'équipe d'Laodicée est devenue riche, s'est senti d'un coup à l'aise. C'est vrai, quand on a de l'argent, on est riche, on se met à l'aise. Il vivait dans l'abondance. Mais par-dessus tout, ils sont devenus égoïstes. Ils ont oublié Christ. Et nous voyons que, à travers ces textes, Dieu, il n'a pas laissé tomber cette église qui court à sa perte avec toutes ses richesses. Il va même alors dire que toi qui es le centre de la médecine, parce qu'il y avait beaucoup d'écoles de médecine à la Odyssée, il y a eu beaucoup de médecins aussi, beaucoup de banques, parce que c'est un grand centre financier, la Odyssée. Il lui dit, mets-toi du collier, afin que tes yeux s'ouvrent. La richesse est en train de noyer ta foi. La richesse, ta richesse, est en train de noyer ta foi. Dans Apocalypse, le chiffre 7 se répète souvent. Nous avons vu que Christ possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits représentent le Saint-Esprit dans sa plénitude. De même que les 7 étoiles signifient que Christ est le maître des églises et reste surtout le centre des églises. Les étoiles sont les anges des églises. Et ces anges sont appelés chrétiens, porteurs de la bonne nouvelle. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes semblables à des anges. Christ est celui qui connaît toutes les églises. Et en même temps, il connaît les œuvres de chaque église. Parce que si nous prions que ton esprit est là, mais derrière l'esprit, c'est Christ. Donc quand on entre dans cette salle, nous savons qu'il est parmi nous. Il connaît nos œuvres. Il connaît l'œuvre que cette église de Créteil mène. Qu'il a vu les œuvres des 7 églises d'Asie. Et il a envoyé Jean porter des recommandations à ces 7 églises. Donc nos œuvres aussi, ici-bas, là, dans cette église de Créteil, sont vues. Il a bien vu que l'église de Sardes semblait vivante. Dans cette église, il y avait plein d'activités. Cependant, Christ n'était pas dans la vie des membres de cette communauté. La La Bible même dit qu'il n'y avait pas de communion fraternelle dans cette église. J'étais là, comme peut-être Cola ce dimanche, comme nous on est là ce dimanche. Mais certains n'avaient pas cette vie de Christ en eux, dans certains membres. Et il manquait de communion fraternelle. Une question ce matin, sans jugement, moi aussi je me la pose. Frères et sœurs, es-tu la tasse de thé bien chaude que l'on boit à petite gorgée, comme l'évangile que tu entends? Es-tu cette tasse tiède que l'évangile doit réchauffer? Ou es-tu cette tasse bien froide que l'on boit de trait et qui ne laisse pas de saveur dans la bouche? Chers frères, chères sœurs, gardons-nous d'être des hommes et des femmes religieux. Je dis bien, gardons-nous d'être des hommes et des femmes religieux. Parce que cette étiquette de religieux, on peut la voir sur le front, mais intérieurement, on en est où? J'en suis où? Pardon, ne reflétons pas une belle image au culte du dimanche, mais en fin de compte, Christ n'est jamais rentré dans nos vies. Il n'y a pas de jugement. C'est une prise de conscience. Cette image du dimanche est-elle sincère? Sinon, on est dans un état de malheureux. Dieu lui-même reprocha à son peuple d'avoir une religiosité extérieure, mais sans changement intérieur. Sommes-nous dans cette situation? Se trouver dans une situation où on n'est ni chaud, ni froid, cela se traduit par la tiédeur. Or Dieu, il n'aime pas qu'on soit tiède. Je redis, il a dit que si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche, tu seras rejeté. Il est vrai qu'un chrétien, à certains moments de sa vie, peut manquer de conviction. Étant dans le monde toujours, sa foi, à un certain moment, peut sembler froide. On n'est pas épargné. Il peut aussi perdre passagèrement cette hardiesse pour l'évangile. À cause des soucis du monde. La solution, c'est de mettre en pratique la spiritualité qui est en nous. Ils seront là, tous sont là, en acceptant Christ. Et nous devons la faire perdurer. Et nous devons nous en servir. Quand l'autre nous dit que Christ n'existe pas, pourquoi tu veux t'attacher à lui? Tiens, tu vois, tu es dans une difficulté. Tu as perdu ça, chez toi ça ne va pas, tes enfants sont dans la difficulté. Ben, Dieu existe. Pourquoi tu as tant de souffrances, de passages difficiles dans ta vie? Non. En nous, quand on l'a accepté Christ, il y a quelque chose. On l'a accepté. Il a mis quelque chose en nous. Il n'a pas dit que tout le temps la vie sera comme un fleuve tranquille. Et voilà. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais quand les bas sont là, il faut revenir à lui. Donc, nous ne voulons pas être comme les pharisiens l'ont été. Alors, on va lire Matthieu 15, versets 1 à 9. Matthieu 15, versets 1 à 9. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Christ leur dit, et vous, pourquoi transgresserez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous annulez ainsi la parole au profit de votre tradition. Donc, gardons-nous de vivre et de pratiquer des habitudes religieuses. Vous savez, sans vivre une vie spirituellement profonde, on ne peut pas non plus vivre une foi profonde et intérieure. C'est pour ça qu'il nous a demandé de tout le temps, dans nos vies, de chaque jour, d'être des gens réfléchis au travail, sur la route, en train de faire, tu fais tes courses et tout. Il y a toujours un certain moment une embûche qui veut que ta foi soit ébranlée. C'est pour cela que si on reste spirituellement profond, et si on vit une voie profonde et intérieure, on a des armes pour combattre les attaques de l'adversité et toutes ces embûches qui sera sur nos chemins. Donc restons attentifs. Nous savons que aucune religion ne peut transformer le cœur de l'homme. Aucune religion. Mais seul accepter Christ de sa vie peut nous transformer. Et cela s'appelle la vraie conversion. Est-ce que tu peux franchir la porte de cette église ce matin? Mais c'est pas cette religion qu'on est, l'église de l'église de Crété, qui va changer, qui va te transformer. Parce que si le corps est tortueux, le cœur est tortueux, il restera tortueux. Mais seul accepter Christ dans ta vie, il va te transformer. Il transformera ce cœur de pierre en cœur de chair. Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Il décrit véritablement le cœur de l'homme à travers encore les pharisiens. Donc Luc 11, 39-40. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. On peut continuer. Ainsi insensé que vous êtes, Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Les pharisiens, ils pensaient qu'ils étaient dans le droit chemin. Qu'ils étaient sans reproche. Mais comme Christ connaît le cœur de l'homme, et qu'il voyait bien que le cœur de ces pharisiens était quand même tortueux, il leur dit, lavez un dedans de vous-même, parce que ça ne va pas. L'extérieur est beau, mais l'intérieur est sale. Celui qui a vraiment reçu le salut par la foi et la grâce en Jésus-Christ ne peut qu'autrement mener une vie transformée. Il doit mener une vie remplie d'amour pour Dieu, son Créateur, pour les autres aussi, son autrui, son à côté, son prochain, et aussi pour lui-même. Parce que la Bible nous dit, ne détruisez pas le temple de Dieu qui est en vous. Obéissons à Dieu, non pas afin d'obtenir les désirs de nos cœurs, mais plutôt pour ce que Christ a fait afin de sauver l'humanité. Et nous verrons que dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, qu'un homme peut-être peut changer son image, chaque jour il peut changer son image. Mais de l'autre côté de son cœur, il ne peut pas changer de comportement. Pardon, un homme humain peut changer son image et de l'autre côté ne peut pas changer son comportement. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. C'est ça le cœur de l'homme. Dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 7, nous voyons que cet homme religieux, à la personne de Nicodème, que beaucoup connaissent cette histoire de Nicodème, Nicodème, il était bien ancré dans l'évangile, dans la religion. Et pourtant, Christ lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux de Dieu. Voilà un homme qui était religieux. Il pensait qu'il était intouchable, il était dans le droit chemin. Mais Christ, voyant le cœur de l'homme, lui dit non. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Et nous voyons que Nicodème n'avait pas compris le sens de cette nouvelle naissance. Il demandait à son âge, est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère? Mais ce n'était pas ça qu'il s'agissait, c'était de cette nouvelle naissance, cette véritable nouvelle naissance. Donc Jésus répondit à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, l'apôtre Paul y décrit véritablement la base d'un chrétien. Nous savons tous ici que la base d'un chrétien, c'est l'amour, la charité, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, l'amour pour soi-même. Quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis riche. Je suis rien. Et même quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent, mais je donne. Je donne aux pauvres, je participe au truc de charité. C'est bien de donner. Tu donnes parce qu'on t'a fait un appel, peut-être. Monsieur Donné, participer pour les gens d'Haïti, participer à droite à gauche dans diverses situations. On fait des dons. Mais derrière cela, on peut donner, on peut tendre la main. Mais dedans, est-ce qu'on a ce véritablement amour dans le cœur pour autrui? Est-ce qu'on, quelquefois, on est touché par diverses situations de la vie où ça nous, on reste ni chaud ni froid? Réflexion. Il est vrai, frères et sœurs, il est bien d'apprécier un frère, une sœur. Mais aussi gardons-nous aussi des approbations humaines. Derrière cela peut ressortir l'orgueil. Je dis bien, gardons-nous des approbations humaines, puisqu'on peut s'enorgueillir par la suite. Donc gardons la tête froide. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas bien qu'au fond, une sœur dit faire, c'est bien. Tout ce que tu fais, c'est bien. C'est aussi bien de porter ce témoignage à ce frère et à cette sœur. Mais nous ne nous appuyons pas sur cette approbation humaine. Tout est de Dieu, tout vient de Dieu. Donc, faisons passer en priorité l'approbation à Dieu seul. Et en retour, nous serons couverts de bénédictions. Je dis cela parce que beaucoup ont fait passer des approbations aux hommes, aux femmes. Ils ont mis Dieu à côté. Ne soulevons pas la jalousie de Dieu. Respectons nos sœurs, aimons-les, chérissons-les, mais honorons le seul Dieu de notre salut. Dans Jacques chapitre 1, versets 26 à 27, Jacques nous montre que la religion a son importance. mais uniquement dans la mesure où cette religion nous conduit à Christ, mort pour nos péchés. Donc nous voyons bien que la religion a son importance, mais ne reste pas l'essentiel pour un chrétien. Jacques, chapitre 1, versets 26 à 27. Tu l'as, frère ? Jacques, chapitre 1, 26. Tu l'as pas ? Je vais le lire. Jacques, chapitre 1, versets 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à persévérer des souillures du monde. Préserver des souillures du monde. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc la religion, elle est importante. Mais derrière cette religion, s'il n'y a pas l'amour, dans Jacques, il nous dit que cette religion, elle est vaine. Donc, aujourd'hui, être chaud, bouillant pour l'évangile, c'est très bien. Donc, si tu es chaud bouillant ce matin, ton arbre doit porter du fruit. Si elle a de la sève. Nous savons que la sève, c'est la vie d'un arbre. Que sans sève, l'arbre meurt. Si ton arbre de vie est enraciné dans cette terre nouvelle, si tu as crucifié la chair avec ses passions, alors Dieu entrera dans ton arbre et œuvrera efficacement. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens chapitre 3, 14-19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus, Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, laissons-nous remplir intérieurement par l'Esprit, afin que la vase déborde extérieurement. Es-tu vraiment planté en Christ? Si c'est oui, alors tu ne dois pas rester stérile. Ces racines sont-elles constamment arrosées par le fleuve de l'Esprit? Si c'est le cas, tu dois porter du fruit régulièrement. Des fruits seront conformes à ton arbre, car en tant qu'enfant de Dieu, de toi sortira l'amour, la paix, la joie. Et tu le partageras avec autrui. De cette église de la Odyssée, ce témoignage qu'elle reflétait apportait un témoignage étriqué de Christ. Étriqué, ça veut dire faible, limité par sa tiédeur. Et de même cas, il mettait en jeu le vrai témoignage de l'Église. Vous comprenez? Le vrai témoignage de l'Église, pas sa tiédeur. Et le vrai témoignage de l'Église, c'est pas ça. Tu ne veux pas rester tiède. Une eau chaude ou une eau froide servent à quelque chose. Mais l'eau tiède ne sert à rien du tout. Cette équipe de la Odyssée se disait avoir besoin de rien, étant riche, à cause des avantages moraux et matériaux, vivant dans l'abondance, était quand même nu, était quand même pauvre et spirituellement. Ils étaient aveuglés par la richesse. Et la Bible prend cette parabole que, malgré le nombre de médecins que cette ville avait, ils avaient besoin de courir afin que les écailles de leurs yeux puissent tomber pour savoir, voir dans quelle situation ils étaient. C'est pour ça qu'il est parlé de courir, qu'il doit mettre du courir dans les yeux afin de voir clair. Afin d'avoir une foi solide. Apocalypse 3, versets 18 à 19. Tu l'as ? 3. Apocalypse 3, 18 à 19. Je vais lire. Apocalypse 3, versets 18 à 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, versets 18 à 19. Mais malgré tout cela, l'amour de Christ pour cette église de la Odyssée ne s'est pas éteint. Cette reproche que Christ a faite à cette église, c'était juste qu'il puisse prendre conscience de son état. État de malheureux, état d'aveuglement, et cet état aussi de pauvreté spirituelle. Ésaïe, chapitre 29, versets 13 à 15, nous voyons que Dieu dit même à son peuple qu'il avait choisi, vous m'honorez des lèvres, de la bouche, par des comportements extérieurs, mais sans avoir véritablement converti vos cœurs. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles et la sagesse de ces sages périgas et l'intelligence de ces hommes intelligent disparaîtra. Malheur à celui qui cache leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit ? Qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre ? Le potier, pardon, le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dit de l'ouvrier ne l'a point fait, pour que la vase dise du potier il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. On va s'arrêter là. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui honorent des lèvres, de la bouche. N'ayons pas des comportements extérieurs formidables. Et qu'en dedans, c'est malheureux. C'est triste. Si ta vase est remplie, elle doit déborder. Afin que les autres à côté puissent recevoir de cette vase qui déborde. Pour terminer, je dirais ce matin, chers frères, chers sœurs des îles de Créteil, sommes-nous aujourd'hui bouillants? Sommes-nous froids? Ou sommes-nous tièdes? Examinons-nous pour savoir de quel côté nous sommes. Amen. Parole du Seigneur.